Deuxième partie.
Les recherches durèrent tout l'été. On ne découvrit pas le criminel. Ce qu'on soupçonna et qu'on arrêta prouvèrent facilement leur innocence et le parquet dut renoncer à la poursuite du coupable. Mais cet assassinat semblait avoir ému le pays entier d'une façon singulière. Il était resté aux âmes des habitants une inquiétude, une vague peur, une sensation d'effroi mystérieux, venue non seulement de l'impossibilité de découvrir aucune trace, mais aussi et surtout de cette étrange trouvaille des sabots devant la porte de la roque le lendemain. La certitude que le meurtrier avait assisté aux constatations, qu'il vivait encore dans le village sans doute, hantait les esprits, les obsédait, paraissait planer sur le pays comme une incessante menace. La futaie d'ailleurs était devenue un endroit redouté, évité, qu'on croyait hanté. Autrefois, les habitants venaient s'y promener chaque dimanche dans l'après-midi. Ils s'asseyaient sur la mousse au pied des grands arbres énormes, ou bien s'en allaient le long de l'eau en guettant les truites qui filaient sous les herbes. Les garçons jouaient aux boules, aux quilles, aux bouchons, à la balle, en certaines places où ils avaient découvert, aplani et battu le sol. Et les filles par rang de 4 ou 5 se promenaient en se tenant par le bras, piaillant de leur voix criarde des romances qui grattaient l'oreille, dont les notes fausses troublaient l'air tranquille et agaçaient les nerfs des dents ainsi que des gouttes de vinaigre. Maintenant, personne n'allait plus sous la voûte épaisse et haute, comme si on se fût attendu à y trouver toujours quelques cadavres couchés. L'automne vint, les feuilles tombèrent. Elles tombaient jour et nuit, descendaient en tournoyant, rondes et légères, le long des grands arbres, et on commençait à voir le ciel à travers les branches. Quelquefois, quand un coup de vent passait sur les cimes, la pluie lente et continue s'épaississait brusquement, devenait une averse vaguement bruissante qui couvrait la mousse d'un épais tapis jaune, criant un peu sous les pas. Et le murmure presque insaisissable, le murmure flottant, incessant, doux et triste de cette chute, semblait une plainte. Et ses feuilles tombant toujours semblaient des larmes, de grandes larmes versées par les grands arbres tristes qui pleuraient jour et nuit sur la fin de l'année. Sur la fin des aurores tièdes et des doux crépuscules, sur la fin des brises chaudes et des clairs soleils, et aussi peut-être sur le crime qu'ils avaient vu commettre sous leur ombre, sur l'enfant violé et tué à leurs pieds. Ils pleuraient dans le silence du bois désert et vide, du bois abandonné et redouté, où devait errer seule l'âme, la petite âme de la petite morte. La brindille, grossie par les orages, coulait plus vite, jaune et colère, entre ses berges sèches, entre deux haies de saules maigres et nues. Et voilà que Renardet, tout d'un coup, revint se promener sous la futaie. Chaque jour, à la nuit tombante, il sortait de sa maison, descendait à pas lents son perron, et s'en allait sous les arbres d'un air songeur, les mains dans ses poches. Il marchait longtemps sur la mousse humide et molle, tandis qu'une légion de corbeaux accourus de tous les voisinages pour coucher dans les grandes cimes se déroulait à travers l'espace, à la façon d'un immense voile de deuil flottant au vent, en poussant des clameurs violentes et sinistres. Quelquefois, il se posait, criblant de taches noires les branches emmêlées sur le ciel rouge, sur le ciel sanglant des crépuscules d'automne. Puis tout à coup, il repartait en croassant affreusement et en déployant de nouveau au-dessus du bois le long feston sombre de leur vol. Ils s'abattaient enfin sur les faits les plus hauts et cessaient peu à peu leurs rumeurs, tandis que la nuit grandissante mêlait leurs plumes noires au noir de l'espace. Renardet errait encore au pied des arbres, lentement. Puis, quand les ténèbres opaques ne lui permettaient plus de marcher, il rentrait, tombait comme une masse dans son fauteuil, devant la cheminée claire, entendant au foyer ses pieds humides qui fumaient longtemps contre la flamme. Or, un matin, une grande nouvelle courut dans le pays. Le maire faisait abattre sa futaie. 20 bûcherons travaillaient déjà, ils avaient commencé par le coin le plus proche de la maison, ils allaient vite en présence du maître. D'abord, les ébrancheurs grimpaient le long du tronc. Liés à lui par un collier de cordes, ils l'enlacent d'abord de leurs bras, puis levant une jambe, ils le frappent fortement d'un coup de pointe d'acier fixé à leur semelle. La pointe entre dans le bois, y reste enfoncée, et l'homme s'élève dessus comme sur une marche pour frapper de l'autre pied avec l'autre pointe, sur laquelle il se soutiendra de nouveau en recommençant avec la première. Et à chaque montée, il porte plus haut le collier de corde qu'il arrache à l'arbre. Sur ses reins pend et brille la hachette d'acier. Il grimpe doucement comme une bête parasite attaquant un géant. Il monte lourdement le long de l'immense colonne, l'embrassant et l'éprenant pour aller le décapiter. Dès qu'il arrive aux premières branches, il s'arrête. Détache de son flanc la serpe aiguë et il frappe. Il frappe avec lenteur, avec méthode, en taillant le membre tout près du tronc. Et soudain, la branche craque, fléchit, s'incline, s'arrache et s'abat en frôlant dans sa chute les arbres voisins. Puis elle s'écrase sur le sol avec un grand bruit de bois brisé. Et toutes ses menues branchettes palpitent longtemps. Le sol se couvrait de débris que d'autres hommes taillaient à leur tour, liaient en fagots et empilaient en tas, tandis que les arbres restés encore debout semblaient des poteaux démesurés, des pieux gigantesques amputés et rasés par l'acier tranchant des serpes. Et quand l'ébrancheur avait fini sa besogne, il laissait au sommet du fût droit et mince le collier de cordes qu'il y avait porté. Il redescendait ensuite à coups d'éperon le long du tronc découronné que les bûcherons alors attaquaient par la base en frappant à grands coups qui retentissaient dans tout le reste de la futaie. Quand la blessure du pied semblait assez profonde, quelques hommes tiraient, en poussant un cri cadencé, sur la corde fixée au sommet. Et l'immense masse soudain craquait et tombait sur le sol avec le bruit sourd et la secousse d'un coup de canon lointain. Et le bois diminuait chaque jour, perdant ses arbres abattus comme une armée perd ses soldats. Renardet ne s'en allait plus. Il restait là du matin au soir, contemplant, immobile et les mains derrière le dos, la morlande de sa futaie. Quand un arbre était tombé, il posait le pied dessus, ainsi que sur un cadavre. Puis il levait les yeux sur le suivant avec une sorte d'impatience secrète et calme, comme s'il eût attendu, espéré, quelque chose à la fin de ce massacre. Cependant, on approchait du lieu où la petite roque avait été trouvée. On y parvint enfin un soir, à l'heure du crépuscule. Comme il faisait sombre, le ciel étant couvert, les bûcherons voulurent arrêter leur travail, remettant au lendemain la chute d'un être énorme. Mais le maître s'y opposa et exigea qu'à l'heure même, on ébranchât et abattît ce colosse qui avait ombragé le crime. Quand l'ébrancheur, le mis à nu, eut terminé sa toilette de condamné, quand les bûcherons en eurent sapé la base, cinq hommes commencèrent à tirer sur la corde attachée au faîte. L'arbre résista. Son tronc puissant, bien qu'entaillé jusqu'au milieu, était rigide comme du fer. Les ouvriers, tous ensemble, avec une sorte de saut régulier, tendaient la corde en se couchant jusqu'à terre. Ils poussaient un cri de gorge essoufflé qui montrait et réglait leur effort. Deux bûcherons, debout contre le géant, demeuraient la hache au poing, pareil à deux bourreaux prêts à frapper encore. Et Renardet, immobile, la main sur l'écorce, attendait la chute avec une émotion inquiète et nerveuse. Un des hommes lui dit « Vous êtes trop près, monsieur le maire. Quand il tombera, ça pourrait vous blesser. » Il ne répondit pas et ne recula point. Il semblait prêt à saisir lui-même à plein bras le hêtre pour le terrasser comme un lutteur. Ce fut tout à coup dans le pied de la haute colonne de bois, un déchirement qui sembla courir jusqu'au sommet comme une secousse douloureuse. Et elle s'inclina un peu, prête à tomber, mais résistant encore. Les hommes excités roidirent leurs bras, donnèrent un effort plus grand, et comme l'arbre brisé croulait, soudain Renardet fit un pas en avant puis s'arrêta. Les épaules soulevées pour recevoir le choc irrésistible, le choc mortel qui l'écraserait sur le sol. Mais le hêtre, ayant un peu dévié, lui frôla seulement les reins, le rejetant sur la face à 5 mètres de là. Les ouvriers s'élancèrent pour le relever. Il s'était déjà soulevé lui-même sur les genoux, étourdi, les yeux égarés, et passant la main sur son front comme il se réveillait d'un accès de folie. Quand il se fut remis sur ses pieds, les hommes surpris l'interrogèrent, ne comprenant point ce qu'il avait fait. Il répondit en balbutiant qu'il avait eu un moment d'égarement, ou plutôt une seconde de retour à l'enfance, qu'il s'était imaginé avoir le temps de passer sous l'arbre, comme les gamins passent en courant devant les voitures au trot, qu'il avait joué au danger, que depuis 8 jours, il sentait cette envie grandir en lui, en se demandant chaque fois qu'un arbre craquait pour tomber, si on pourrait passer dessous sans être touché. C'est une bêtise, il l'avouait, mais tout le monde a de ces minutes d'insanité et de ces tentations d'une stupidité puérile. Il s'expliquait lentement, cherchant ses mots, la voix sourde, puis il s'en alla en disant « À demain, mes amis, à demain ». Dès qu'il fut rentré dans sa chambre, il s'assit devant sa table que la lampe coiffée d'un abat-jour éclairait vivement, et prenant son front entre ses mains, il se mit à pleurer. Il pleura longtemps, puis s'essuya les yeux, releva la tête et regarda sa pendule. Il n'était pas encore 6 heures. Il pensa « j'ai le temps avant le dîner ». Il alla fermer sa porte à clé. Il revint alors s'asseoir devant sa table. Il fit sortir le tiroir du milieu, prit dedans un revolver, et le posa sur ses papiers en pleine clarté. L'acier de l'arme luisait, jetant des reflets pareils à des flammes. Renardet le contempla quelque temps avec l'œil trouble d'un homme ivre. Puis il se leva et se mit à marcher. Il allait d'un bout à l'autre de l'appartement et de temps en temps s'arrêtait pour repartir aussitôt. Soudain, il ouvrit la porte de son cabinet de toilette, trempa une serviette dans la cruche à eau et se mouilla le front. comme il avait fait le matin du crime. Puis il se remit à marcher. Chaque fois qu'il passait devant sa table, l'arbre brillant attirait son regard, sollicitait sa main. Mais il guettait la pendule et pensait « J'ai encore le temps ». La demie de 6 heures sonna. Il prit alors le revolver, ouvrit la bouche toute grande, avec une affreuse grimace et enfonça le canon dedans, comme s'il eût voulu l'avaler. Il resta ainsi quelques secondes, immobile, le doigt sur la gâchette, puis brusquement, secoué par un frisson d'horreur, il cracha le pistolet sur le tapis. Et il retomba sur son fauteuil en sanglotant. « Je ne peux pas. Je n'ose pas, mon Dieu. Comment faire pour avoir le courage de me tuer ?» On frappait à la porte, il se dressa affolé. Un domestique disait « Le dîner de monsieur est prêt. » Il répondit « C'est bien, je descends. » Alors il ramassa l'arme, l'enferma de nouveau dans le tiroir, puis se regarda dans la glace de la cheminée pour voir si son visage ne lui semblait pas trop convulsé. Il était rouge comme toujours, un peu plus rouge peut-être, voilà tout. Il descendit et se mit à table. Il mangea lentement, en homme qui veut faire traîner le repas, qui ne veut point se retrouver seul avec lui-même. Puis il fuma plusieurs pipes dans la salle pendant qu'on desservait. Puis il remonta dans sa chambre. Dès qu'il s'y fut enfermé, il regarda sous son lit, ouvrit toutes ses armoires, explora tous les coins, fouilla tous les meubles. Il alluma ensuite les bougies de sa cheminée et, tournant plusieurs fois sur lui-même, parcourut de l'œil tout l'appartement avec une angoisse d'épouvante qui lui crispait la face, car il savait bien qu'il allait la voir, comme toutes les nuits, la petite Roque, la petite fille qu'il avait violée, puis étranglée. Toutes les nuits, l'odieuse vision recommençait. C'était d'abord dans ses oreilles une sorte de ronflement comme le bruit d'une machine à battre ou le passage lointain d'un train sur un pont. Il commençait alors à haleter, à étouffer. Il lui fallait déboutonner son col de chemise et sa ceinture. Il marchait pour faire circuler le sang. Il essayait de lire, il essayait de chanter, c'était en vain. Sa pensée, malgré lui, retournait au jour du meurtre. Il le lui faisait recommencer dans ses détails les plus secrets, avec toutes ses émotions les plus violentes de la première minute à la dernière.